Bonjour, bienvenue sur Globule Radio. Vous êtes avec des élèves de 4e du collège Jeanne d'Arc. Je m'appelle Thaïs, j'ai 13 ans, je fais du golf, du ski et du snowboard. Avec Célian et Evie, nous allons vous parler du thème de la planète Terre. Pour commencer, Evie et Célian vont se présenter à leur tour, puis nous commencerons l'émission avec une musique, puis en vous présentant une interview faite par Célian sur les effets du permafrost dans nos montagnes avec Ludovic Ravanel.
Bonjour, je m'appelle Evie, j'ai 13 ans et je fais du patinage artistique en compétition ainsi que de la plongée sous-marine.
Bonjour, je m'appelle Célian, j'ai 13 ans, je fais de l'escalade en compétition, je fais aussi du ski et je commence le parapente bientôt. Et maintenant, la musique Gimme Gimme de ABBA.
Vous venez d'écouter Gimme Gimme de ABBA et nous allons maintenant écouter l'interview de Célian.
Bonjour, vous vous appelez Ludovic Ravanel et vous êtes scientifique géomorphologue au CNRS. Donc vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail ?
Alors effectivement, mon laboratoire est à Chambéry, il s'appelle le laboratoire EDITEM, ça veut dire environnement et dynamique des territoires de montagne. C'est un laboratoire pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on fait de la géologie, de la géomorphologie, de la glaciologie. Le point commun de tous les chercheurs, c'est de travailler sur les milieux de haute montagne et de montagne en général. Et pour ma part, en tant que géomorphologue, je m'intéresse à l'évolution des reliefs terrestres, en particulier en haute montagne et notamment en lien avec le réchauffement climatique.
D'accord, donc aujourd'hui on va plutôt axé sur le sujet du permafrost. Donc globalement, c'est quoi le permafrost ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors le permafrost, c'est tous les terrains dont la température reste durablement négative. Ça veut dire en gros que les terrains sont gelés. Cet état thermique, ça ne se voit pas. On a quand même des indicateurs, par exemple la présence d'un glacier suspendu, la présence d'un tablier de glace indique que la paroi est à permafrost. Et ce permafrost, il faut vraiment retenir qu'il s'agit seulement d'une température, ça ne se voit pas. Donc il faut le mesurer avec des capteurs de température pour savoir s'il y a du permafrost ou non.
Comment se forme le permafrost ?
Le permafrost, c'est un héritage des dernières périodes glaciaires. Il y a 25 000 ans, par exemple, la quasi-totalité des Alpes était couverte de glace. Par contre, on a quand même des sommets qui ressortaient. Et comme il faisait très froid, le permafrost, à ce moment-là, a commencé à se mettre en place. Et de la même manière, autour du pôle Nord, on avait énormément de glace. Et autour de cette glace, là où on n'en avait pas, le permafrost pouvait se former grâce à des températures très négatives. Donc c'est un héritage, c'est quelque chose qui nous vient des grandes périodes glaciaires.
Donc, quel est votre rôle scientifique sur le sujet du permafrost ?
Alors, il y a deux aspects sur lesquels je travaille. Premier aspect, c'est d'un point de vue fondamental, mieux comprendre où est le permafrost, quelle est sa température, comment il agit pour souder les montagnes en particulier. Et le deuxième aspect, c'est un aspect beaucoup plus appliqué, c'est d'anticiper les risques pour les infrastructures. Et en haute montagne, on a dans les Alpes françaises 947 éléments d'infrastructure présents sur le permafrost. Ce sont des gardes téléphériques, ce sont des pylônes, ce sont des refuges, ce sont des systèmes paravalanches. Et du fait de la dégradation du permafrost, tous ces éléments peuvent bouger. Et mon travail, justement, c'est d'anticiper ça.
Et donc, quel problème le permafrost pourrait causer au niveau virus ou maladie ?
On a deux types de permafrost. On a le permafrost de montagne et on a le permafrost de haute latitude. Alors, en montagne, le permafrost aura beau dégeler, ça n'aura pas d'incidence en termes de virus. Par contre, en Sibérie, en Arctique, on peut effectivement avoir des problématiques puisque les terrains ont gelé il y a très très longtemps. Et en gelant, ils ont enfermé des virus, des bactéries. On peut prendre l'exemple du Spitzberg, où au début du XXe siècle, il y a eu une grosse maladie, la grippe espagnole. Évidemment, il y a des gens qui sont morts, y compris là-haut, de la grippe espagnole. Ils ont enterré leurs morts. Et aujourd'hui, comme le permafrost dégèle, eh bien, ce sont des virus qui sont susceptibles de ressortir. Donc il faut être très vigilant du point de vue sanitaire par rapport à cette évolution du permafrost, non pas à haute altitude, mais à haute latitude.
Donc, globalement, où trouve-t-on le permafrost exactement ? Sur quel terrain ?
Alors, deux types de permafrost. Tout d'abord, le permafrost de haute latitude, donc en Sibérie, au Canada. Généralement, c'est des régions relativement plates. Et ce qui a gelé il y a plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années, ce sont des tourbières, de grandes tourbières, c'est-à-dire qu'il y avait une activité biologique forte et on a stoppé d'un seul coup toute l'activité biologique. Et puis le deuxième type de permafrost, c'est celui qu'on va retrouver dans les Alpes, qu'on appelle du permafrost de haute montagne, qui est plus difficile à comprendre parce que les montagnes, c'est pas tout plat. Il y a des différences d'altitude, il y a des différences d'orientation, il y a des différences de type de terrain. Et tout ça complexifie l'étude du permafrost.
D'accord. Et donc, j'ai aussi entendu dire que le permafrost était un mot anglais. Y a-t-il un mot français pour le définir ?
Effectivement, moi j'utilise le terme de permafrost, qui est la combinaison entre permanent et frost, ça veut dire gelé durablement. Et en français, on peut dire pergélisol. Pourquoi est-ce que j'utilise pas ce terme ? Parce que dans pergélisol, il y a sol. Or, c'est pas toujours un sol. Le permafrost, ça peut être une paroi, ça peut être une moraine. C'est n'importe quel type de terrain, donc j'ai préféré utiliser le terme anglais.
D'accord, donc au final, le terme anglais est quand même beaucoup plus utilisé que le terme français. Et donc, quel problème la construction de bâtiments peut-elle causer dans les zones de permafrost ?
On peut avoir des bâtiments soit en montagne, soit justement sur le permafrost de haute latitude. Dans les deux cas, ça déstabilise les terrains. Donc en haute montagne, on peut imaginer que la glace qui est présente dans les fissures cimente les terrains, cimente les parois. Et donc, si ce ciment dégèle, si ce ciment fond, on peut avoir des problèmes d'instabilité. On a vu ça dès 1998 pour le refuge des Cosmiques. Il a fallu un an de travail pour solidifier l'ensemble du secteur. Et puis, à haute latitude, quand les tourbières dégèlent, etc., on a les habitations, on a les bâtiments, on a les pipelines, on a les oléoducs, les gazoducs qui se déstabilisent, qui s'affaissent. Et donc, ça peut produire des fuites au niveau des gazoducs, au niveau des oléoducs. Et puis au niveau des bâtiments, ça les fissures, etc. Donc on a toute une série de problématiques géotechniques associées à la fonte, à la dégradation du permafrost.
D'accord. Et quels sont les effets de la fonte du permafrost sur les émissions à gaz à effet de serre, donc sur le réchauffement climatique ?
Alors quand le permafrost de montagne se dégrade, ça n'a aucune incidence parce qu'en fait, il n'y a pas de gaz qui sont prisonniers en haute montagne. Par contre, effectivement, à haute latitude, encore une fois en Sibérie par exemple, comme c'est des tourbières qui avaient une activité biologique très forte qui dégèle, ça relargue énormément de gaz à effet de serre, type dioxyde de carbone et méthane. Et donc, c'est un petit peu une barre retardement. Plus il fait chaud, plus le permafrost se dégrade. Plus il se dégrade, plus il y a des gaz à effet de serre qui sont émis. Et donc, ce cercle non vertueux, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Et ça participe à l'accélération du réchauffement climatique.
Et donc, je vois que ce n'est pas très positif. Donc, quelles sont quelques-unes des stratégies pour prévenir la dégradation du permafrost ?
La dégradation du permafrost, elle est directement liée au réchauffement climatique. Donc la seule possibilité de limiter ça, c'est de limiter le réchauffement climatique avec tous les gestes que l'on connaît du quotidien. Mais d'une manière générale, les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et être beaucoup plus virulents par rapport à ces gaz à effet de serre. Et malheureusement, toute la politique actuelle n'est pas du tout orientée là-dessus.
Et y a-t-il des effets négatifs de la fonte du permafrost sur la faune et la flore ?
Sur la faune et la flore, c'est pas quelque chose qui est directement travaillé par les scientifiques. Là, pour le coup, on peut peut-être dire au contraire, parce que les terrains qui dégèlent, justement, retrouvent une activité biologique avec davantage d'activités animales, d'activités végétales. Donc, il n'y a pas trop d'effets négatifs par rapport à ça.
D'accord. Et donc, il y a des avantages liés à la fonte du permafrost ?
Alors, les avantages, ils peuvent arriver une fois que le permafrost a totalement disparu. C'est-à-dire qu'en montagne, par exemple, quand on a des parois qui se déstabilisent du fait de la dégradation du permafrost, une fois cette dégradation terminée, eh bien, les parois retrouvent une certaine stabilité. Donc, c'est là qu'on peut y trouver un avantage, mais à courte échéance, il y en a très peu.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu pour cette interview. Et j'ai plus de questions à poser.
Vous allez maintenant écouter Her Song de Michael Jackson.
Je vais maintenant vous lire ma chronique personnelle qui parle des préjugés du golf, quelque chose qui me tient à cœur. Comme le disait si justement Bob Totski, célèbre joueur de golf dans les années 1950, le golf est un sport pacifique qui se joue violemment de l'intérieur. Il semble que pour beaucoup, le golf ne soit pas un sport. C'est pour cela qu'aujourd'hui je souhaiterais démontrer que la phrase de Bob Totski est tout à fait vraie. D'après la définition du dictionnaire Le Robert concernant le sport, C'est une activité physique, exercice dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. Alors voyons ensemble si le golf est un sport.
A-t-on une idée de pourquoi certains pensent que le golf n'est pas un sport ?
Oui, car le golf a l'image d'une activité de vieux riches qui se baladent dans une voiturette électrique. Une partie de golf sur 18 trous demande environ 4h30, ce qui est très long. C'est souvent pour cela que l'on voit des gens retraités sur un parcours. Le golf demande beaucoup de temps, de plus, beaucoup de règles et de jeu et de bonne conduite sont à tenir pendant une partie, ce qui peut donner l'impression que le golf est ennuyeux. Mais par contre, il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sont 31 millions de golfeurs et en France, il y a tout de même 445 000 licenciés. C'est un sport qui attire tous les ans de plus en plus de joueurs de tout âge. Environ 50 000 licenciés ont moins de 19 ans. Il existe de nombreux golfs pour le grand public avec des journées portes ouvertes ou des offres de bienvenue pour essayer de casser une image qui n'est plus d'actualité. Comptez en moyenne 23€ pour 9 trous et 45 pour 18. À titre de comparaison, le prix moyen d'un forfait de ski est de 45€.
Si c'est un sport, alors on travaille certainement des muscles et on développe des aptitudes physiques, non ?
Eh bien oui, le golf permet de travailler différentes habiletés physiques. Comme je vous le disais, une partie dure longtemps. Donc nous devons améliorer notre endurance et la gestion de l'effort. Nous travaillons la puissance, la force, l'explosivité et la synchronisation de nos mouvements, car il faut toutes ces qualités pour envoyer une balle à plus de 200 mètres de distance. Ensuite, nous développons notre équilibre, nos appuis, la mobilité, la souplesse et la proprioception. Les qualités que nous travaillons au golf sont diverses et variées, comme la plupart des sports. Concernant les muscles au golf, les professionnels passent beaucoup de temps à faire du renforcement musculaire, car tous les muscles sont en action. Bien évidemment, certains demandent plus d'efforts que d'autres, tels que les muscles des épaules, des bras, des dorsaux, les abdominaux, les jambes et sans oublier le cœur.
Est-ce que pour toi, le golf peut aider à se surpasser ?
Bien sûr, car la gestion du stress et des émotions est très compliquée à gérer au golf. Quand tout ne se passe pas comme on le souhaite, cela peut vite nous frustrer, donc il faut apprendre à se connaître pour arriver à positiver chaque situation. En revanche, un joli coup de golf donne des sensations incroyables, car ils peuvent être durs à réaliser. Le golf nous oblige à développer sa concentration car il n'y a jamais deux coups identiques, ce qui le rend si difficile. Pour conclure, nous pouvons dire que le golf est un sport. Je souhaiterais remercier vivement Monsieur Jean-Claude Bonnaz, entraîneur de golf, ainsi que Sport Santé, les laboratoires Stimium et l'encyclopédie du golf pour m'avoir aidé à montrer que le golf demande énormément d'aptitudes physiques et mentales. J'espère qu'avec cette chronique, votre vision du golf aura changé. Que l'on considère ou non le golf comme un sport, je vous invite à l'essayer pour vous faire votre propre opinion et peut-être déclencher chez vous une nouvelle passion. Vous allez maintenant écouter Aux arbres citoyens de Yannick Noah.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
écouter la chanson « Aux arbres citoyens » de Yannick Noah. À présent, Evie va vous présenter son reportage qu'elle a fait sur les avalanches de la vallée de Chamonix, suivi de Metz, de Ed Sheeran.
Les montagnes majestueuses et imposantes cachent parfois un danger invisible mais désastreux, les avalanches. Ce phénomène naturel peut transformer en quelques secondes un paysage enneigé en un torrent de neige destructeur. Une avalanche se produit lorsque des couches de neige se détachent et dévalent une pente. Les causes sont multiples, chute de neige abondante, variation de température, vent fort et même l'activité humaine. La formation d'une avalanche dépend de plusieurs facteurs. La stabilité du manteau neigeux est cruciale. Lorsque des couches de neige de densité différente s'accumulent, des tensions se créant pouvant mener à une rupture. Chaque année, des avalanches causent des dizaines de morts et des millions d'euros de dégâts. Les zones les plus touchées sont les Alpes rocheuses, l'Himalaya et les Rocheuses. La prévention est essentielle. Connaître les conditions météo, utiliser des équipements de sécurité comme l'ARVA, appareil de recherche de victimes en avalanche, et être formé au premier secours peut sauver des vies. Lorsqu'une avalanche se déclenche, chaque seconde compte. Les victimes enterrées ont une chance de survie de 90% si elles sont retrouvées dans les 15 premières minutes. Au-delà des chances, diminuent sévèrement. Les équipes de secours en montagne sont formées pour intervenir rapidement. L'utilisation de chiens de recherche, d'hélicoptères et de drones a considérablement amélioré les opérations de sauvetage. Notre mission est de sauver des vies. La formation continue, l'utilisation de nouvelles technologies sont essentielles pour rester efficaces. Les avalanches sont un rappel de puissance de la nature. En respectant la montagne et en prenant des précautions, nous pouvons profiter de sa beauté tout en minimisant les risques. Restez informés, restez prudents et surtout restez en sécurité. Maintenant, Mess de Ed Sheeran.
Oh, I'm a mess right now, inside out. Searching for a sweet surrender, but this is not the end. I can't work it out. How? Going through the motions, going through us. And oh, I've known it for the longest time, and all of my hopes, all of my words are all overwritten on the signs. When you're on my road, walking me home, 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 home. See the flame inside my eyes, it burns so bright. I wanna feel your love. No, easy baby, maybe I'm a lie. But for tonight, I wanna fall in love. Put your faith in my stomach. I messed up this time, late last night. Drinking to suppress devotion with fingers intertwined. I can't shake this feeling now. We're going through the motions, hoping you'd stop. And oh, I've only caused you pain, you know, but all of my words were always below.
Now,
êtes toujours sur Globule Radio avec les élèves du Collège Jeanne d'Arc, Thaïs, Célian et Evie. Maintenant, Célian veut vous parler de l'astrophotographie, un sujet qu'il voulait partager.
Le budget pour faire de l'astrophoto, vous pensez que c'est élevé ? Oui, eh ben c'est pas faux. En effet, le budget minimal pour faire de l'astrophoto est d'environ 800 euros et peut atteindre plusieurs milliers d'euros, voire pour certains télescopes comme ceux de la NASA, des millions.
Waouh, ça fait beaucoup !
Oui, enfin ça, c'est si vous voulez faire des photos détaillées. Avec votre simple smartphone, vous pouvez déjà faire de belles photos de constellations. Donc, dans cette chronique, comme vous l'avez compris, on va parler d'astrophotographie. Sans rentrer dans les détails trop compliqués, l'astrophotographie, globalement, c'est le fait de prendre en photo les astres, comme les nébuleuses, galaxies, planètes, constellations, etc. Il existe plusieurs types d'astrophotographie. L'astrophoto événementielle, qui consiste à prendre en photo les astres ou événements qui se produisent rarement, comme par exemple les éclipses. L'astrophoto de paysage, qui consiste à prendre en photo des plans larges du ciel, comme les constellations ou la Voie lactée, par exemple. L'astrophoto planétaire, elle, consiste, comme son nom l'indique, à capturer les planètes de notre système solaire. Et enfin, le dernier type, auquel on va s'intéresser plus en détail, est l'astrophoto du ciel profond, donc tout ce qui est nébuleuses et galaxies.
Oh, je me rappelle, j'ai déjà vu des photos de nébuleuses. C'est super beau.
Eh oui, c'est complexe, mais c'est beau. Pour le ciel profond, les astres sont très peu lumineux et ne sont pas visibles à l'œil nu. Il est donc nécessaire de faire ce qu'on appelle des poses longues, qui consistent à prendre une photo qui va durer plusieurs secondes, voire minutes, pour donner au final une photo avec toute la lumière accumulée pendant ce laps de temps. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire plusieurs poses longues que l'on va ensuite empiler pour laisser place à une seule photo.
Et quel matériel faut-il alors pour faire de l'astrophotographie ?
Pour faire de l'astrophotographie, il existe plein d'objets pratiques qui permettent d'augmenter la qualité ou de faciliter la prise de photos, mais trois objets sont essentiels. En premier, il est obligatoire d'avoir un appareil photo, bien évidemment, de préférence un réflexe ou un hybride, car il faut que l'objectif photo puisse s'enlever pour pouvoir fixer l'appareil à son télescope ou à un téléobjectif. En deuxième, il faut un objectif d'appareil photo. En planétaire, le plus simple est de se tourner vers un téléobjectif avec un grand zoom. En ciel profond, le mieux est de choisir un télescope Newton ou une lunette astronomique. La différence entre les deux est au niveau des miroirs dedans, mais ce n'est pas très important. En ciel profond, le zoom ne nous intéresse pas et le télescope est parfait pour ça, car les oculaires de zoom, on peut les enlever. Et le troisième objet requis est une monture équatoriale motorisée. C'est obligatoire en ciel profond. Sans rentrer dans les détails, cette monture va servir de trépied pour l'appareil et le télescope, et va tourner automatiquement pour compenser la rotation de la Terre, ce qui sert à éviter les filets d'étoiles, car en pose longue, ça accumule toute la lumière. Donc si un point lumineux bouge, bah ça fait une ligne.
Oula, c'est compliqué. Mais dis-moi, comment on arrive à cadrer les nébuleuses et les galaxies si on ne les voit pas ?
C'est une très bonne question, mais il n'y a pas de recette magique. Sur les télescopes, il y a ce qu'on appelle des chercheurs, qui sont comme une petite longue vue alignée au télescope qui permet de viser les astres plus facilement. Mais on ne voit pas mieux les astres. Le plus facile est d'aller regarder où se situe l'astre précisément sur des logiciels comme Stellarium ou Sky Safari et repérer les étoiles visibles les plus proches pour positionner l'astre entre deux repères.
Oh, je vois.
Bon, je vous ai expliqué les bases, mais c'est en réalité beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, après avoir pris toutes les photos, il y a toute une partie informatique pour traiter la photo et la rendre jolie. Mais ce sujet est trop complexe pour tout vous expliquer en si peu de temps.
Merci pour ces informations intéressantes. Rien que ça, je l'ai déjà trouvé compliqué. Maintenant, vous allez écouter mon interview qui part sur les cristaux avec Alexandre Devoisseau qui a gentiment accepté de répondre à mes questions.
Aujourd'hui, sur Globule Radio, nous accueillons Alexandre Devoisseau. Alexandre est guide de haute montagne, menuisier charpentier et il a une passion toute particulière pour les cristaux dont il va nous parler aujourd'hui. Déjà Alexandre, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je m'appelle Alexandre Devoisseau, donc comme Thaïs m'a bien présenté, je suis guide, menuisier charpentier et je ramasse aussi des cristaux.
La première question que je souhaiterais vous poser est tout simplement, qu'est-ce qu'un cristallier ?
Alors, un cristallier, c'est un... Avant d'être cristallier, il faut déjà être alpiniste et... C'est une personne qui va ramasser des cristaux dans le massif du Mont-Blanc.
Et peut-on faire de cette activité un métier ?
Alors, c'est une activité qui est quand même assez aléatoire par rapport aux trouvailles que l'on fait. Effectivement, on vend un peu de cristaux, mais de là à en faire son métier, c'est vraiment délicat.
Mais comment êtes-vous devenu cristallier ?
Eh ben, c'est en voyant des pierres et des reportages, etc., toutes ces jolies pierres, que ça m'a donné envie un jour d'aller en ramasser, et je me suis mis à aller en chercher, puis à force d'en trouver, j'en ai fait de plus en plus.
Et Alexandre, souvenez-vous du premier cristal que vous avez trouvé, et a-t-il créé une émotion particulière ?
Oui, bien sûr, je me souviens de ce premier cristal. Je l'ai trouvé, j'étais guère plus vieux que vous. Et bien sûr, c'était une grande émotion de trouver ce trésor dans la montagne.
Est-ce que tout le monde peut ramasser des cristaux ?
Alors, tout le monde, oui et non. Pour ramasser des cristaux, comme je vous l'ai dit, faut déjà être bon grimpeur, bon alpiniste et avoir des notions de montagne. Et au-delà de ça, il faut aussi se déclarer en mairie à Chamonix parce que il y a une déclaration à remplir et respecter un code d'honneur. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde.
Pouvez-vous nous parler de ce code d'honneur des cristalliers de la vallée de Chamonix ?
Alors, c'est une règle qu'on s'est mis, qui existe depuis qu'on cueille les cristaux. Et parmi ces règles, on ne doit pas utiliser de moyens mécaniques pour aller extraire les cristaux. Donc, pas d'hélicoptère, pas de marteau-piqueur, pas d'explosifs. Et on doit ramener les cristaux donc à dos d'homme et les extraire juste avec nos marteaux et notre burin. Et rien de plus.
Et peut-on vendre ces trouvailles et à quel prix ?
Alors bien sûr, il y a un marché pour les cristaux. Tous les cristaux n'ont pas tous la même valeur. Ça va aller de 1 euro à plusieurs milliers d'euros. Et en général, on vend ces cristaux soit au musée, soit lors de bourses aux minéraux. On en trouve deux à Chamonix, de bourses aux minéraux. La bourse du mois d'août et la bourse des cristalliers à l'automne.
En quelques mots, pouvez-vous nous parler de la formation des cristaux ?
Alors les cristaux, ils sont formés dans le centre de la Terre, dans les rochers. C'est de l'eau qui circule dans les roches et qui, en se rapprochant du noyau terrestre, se réchauffe. Et en se réchauffant, elle a un énorme pouvoir de dissolution. Elle dissout les minéraux qu'il y a dans la roche. Et en remontant vers la surface, elle refroidit. Et ensuite, elle se cristallise et forme du coup les cristaux.
Existe-t-il différents types de cristaux ?
Oui, bien sûr. En France, il y a plusieurs milliers d'espèces de cristaux différentes. Et dans le massif du Mont Blanc, on cherche plus particulièrement le quartz fumé même, et la fluorine rose. C'est les deux plus prisés.
Ma question est certainement indiscrète, mais Alexandre, où trouve-t-on les cristaux ?
Alors, dans la vallée de Chamonix, on trouve les cristaux plutôt dans le massif du Mont-Blanc, plutôt que dans les aiguilles rouges. Dans les aiguilles rouges, il y en a un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et dans le massif du Mont-Blanc, il y a plusieurs zones. On en trouve dans le secteur du Couvercle, dans le secteur du bassin d'Argentière, le secteur du Tourle, la Charpoix. On en trouve quasiment partout dans le massif, en fait.
Je suppose que votre connaissance de la montagne vous aide à trouver les cristaux. Mais existe-t-il des indices pour trouver les cristaux ?
Oui, alors quand on va accueillir des cristaux, on a souvent une petite paire de jumelles avec nous et on scrute un peu les faces aux jumelles avant d'aller voir au pied. Et dans les faces, on peut voir des zones ou des veines blanches, des veines plus claires dans le rocher qui sont des bons indices pour les cristaux.
Eh bien Alexandre, ce fut un réel plaisir de vous écouter, de votre passion et je sais que nos auditeurs ont eu le même plaisir. Nous vous souhaitons une bonne saison à la recherche de ces trésors que nous offre la montagne.
Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.
Nous allons maintenant écouter Enjoy the Silence, qui veut dire en français profiter du silence, mais bien sûr, c'est une musique.
Into my little world, painful to me, it's right.
Vous avez écouté Dépêche Mode et maintenant je laisse le micro à Evie qui va vous expliquer comment la notation de patinage artistique fonctionne en compétition.
Injustice de notation au championnat d'Europe de patinage artistique en 1990. On a beaucoup entendu parler du cas de DJ Snai qui s'est senti lésé après avoir reçu sa note de 2 ayant espéré une note de 4. Je vais donc vous parler de comment sont notés les compétiteurs en compétition. La première compétition officielle de patinage artistique a eu lieu en 1882. Bien sûr, les juges notent très différemment aujourd'hui. Les règles changent un peu tous les ans, mais en gardant la même structure. Un autre truc pour nous compliquer la vie. Avant 2003, les juges donnaient deux notes, technique et présentation, allant de 0 à 6. Le score final étant l'addition des deux. Maintenant, on est toujours sur la technique et sur la présentation, mais différemment. La notation technique, TES, qui signifie Total Element Score, dépend des éléments réalisés. À chaque élément est assigné une notation de base. Les spécialistes techniques identifient chaque élément par leur niveau de difficulté. Par exemple, l'axel qui vaut 1.1. Ensuite, chaque juge détermine pour chaque élément un niveau d'exécution, GOE pour Grade of Execution, allant de moins 5 à plus 5, qui rajoute ou enlève des points à la valeur de base de l'élément. Pour trouver la note finale des GOE, la note est ajoutée à la valeur de base et ensuite les juges calculent la moyenne en éliminant le meilleur et le pire des qualificatifs. Il y a aussi la notation de composantes, TCS, qui signifie Total Component Score, qui était connue à l'époque sous le nom de présentation. On est noté sur l'habilité de patinage, les transitions entre les éléments, la performance et la qualité d'exécution, la chorégraphie / composition du programme et l'interprétation. Chaque juge note les composantes du programme sur une échelle de 0,25 à 10 points par intervalle de 0,25. Les juges utilisent à peu près le même processus que la note technique par un facteur variant selon le programme long ou court.
C'est intéressant, je ne pensais pas que ça se passait comme ça. Mais c'est quoi les éléments d'un programme ?
Très bonne question. En gros, il y a trois types d'éléments dans un programme de patinage artistique. À n'importe quel niveau, il y a toujours les trois mêmes éléments. Les sauts, les pirouettes et tout ce que concerne la glisse. Le seul truc qui change, c'est le niveau de l'élément. Dans les sauts, on trouve l'axel, le salco, le boucle piqué, le boucle, le flip et le lutz. Et tout ça peut être fait en double, triple, quadruple, etc. Pour les pirouettes, c'est un peu plus compliqué. Il y a des pirouettes de base, debout, assise et allongée. Ensuite, pour rajouter du niveau, il y a les variations, sortie et entrée difficile, changement de quart et de pied, et aussi un ou plusieurs changements de position. Tout cela se fait à partir des positions de base. Et la glisse, c'est tout ce que c'est les attitudes. Arabesque, fenêtre, royale, Y, guitare, grand aigle, fantinabauer et les suites de pas. Dans le domaine du patinage artistique, le fait de noter devient non seulement un élément technique, mais aussi un langage poétique que les patineurs utilisent pour laisser une impression durable aux spectateurs et aux juges.
Voilà, notre émission est terminée. C'était Evie, Thaïs et Célian du Collège Jeanne d'Arc. Tout de suite, la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan, et puis Tout va bien de Orelsan, suivi du groupe de Alizé, Antoine et Maxime du Collège Jeanne d'Arc.